on va se consacrer à l'insertion des jeunes et les différents services qui leur sont proposés avec différentes structures et organismes. Alors avant de commencer, peut-être que chacun ici autour de la table, je vous demanderai de vous présenter et présenter aussi l'organisme que vous représentez ici. On commence peut-être avec Madame Guillain.
Donc Nathalie Guillain, je suis coordinatrice de la mission générale d'insertion sur le bassin Sarthe-Nord. Donc je travaille auprès des établissements scolaires, collèges, lycées, lycées professionnels, que de La Ferté principalement, et ça va de Saint-Calais jusqu'à Mamers. Donc des jeunes de plus de 16 ans.
Donc Chantal Agenoux, je suis conseillère en insertion sociale et professionnelle à la mission locale du Mans. Donc nous, on cible un public 16-25 ans, sorti du système scolaire la plupart du temps. On dira même parfois en rupture scolaire. Et notre rôle, c'est de les accompagner, de les aider dans leur démarche de recherche de formation ou de recherche d'emploi et les aider à se construire un projet professionnel cohérent. Et pour cela, on leur propose un suivi individualisé.
Évaristo Djéré de la PAIO Rive de Sarthe. Il comprend en fait le canton d'Allonne et de la Suze.
On peut juste expliquer l'abréviation.
Alors PAIO, ça veut dire permanence d'accueil, d'information et d'orientation. Et comme ma collègue, donc PAIO et mission locale, ce sont des structures d'accueil pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, 16-25 ans, révolus. L'objectif, si on pouvait le synthétiser, ça serait aider un jeune à trouver une insertion professionnelle et sociale satisfaisante. Comme ma collègue l'a dit aussi précédemment, c'est des jeunes sortis du système scolaire. Donc l'idée, c'est de les suivre. Et c'est vraiment ça, une des spécificités des PAIO missions locales, c'est le travail de suivi sur une longue période. Donc un jeune qui rentre à 18 ans, son dossier est suivi jusqu'à ses 25 ans résolus, qu'il travaille ou pas. Il y a toujours cette notion d'accompagnement et de suivi.
Alors Marc Landais, je suis donc coordonnateur pour la mission générale insertion, donc je travaille au lycée professionnel Le Mans Sud. Donc je travaille avec un public donc de jeunes qui sont sortis du système scolaire récemment, et également donc avec des jeunes qui sont identifiés en rupture de scolarité. Voilà, donc l'idée, c'est de travailler avec eux pour définir un plan de formation qui soit adapté. Donc dans un premier temps, on essaie effectivement de définir un projet professionnel qui soit cohérent et qui soit aussi en fonction de leur affinité. Voilà, donc on essaie de travailler, je dirais, en alternance entre des séquences en formation et des séquences en entreprise.
Et enfin, un représentant du CIO.
Oui, voilà, Dominique Grange. Donc, je suis conseiller d'orientation psychologue. Je travaille pour le compte du CIO, donc Le Mans Sud. Je rappelle que la structure CIO dans l'Académie de Nantes, c'est 20 structures et 5 en Sarthe. Alors, mon travail principal consiste à accompagner et à fournir quelques conseils sur l'orientation des jeunes. En gros, pour simplifier, de la 6e à la terminale et parfois au-delà, jusqu'à l'université.
Juste avant de vous poser la première question, je crois qu'il est bon de préciser, pour ne pas tomber dans la caricature, que ce ne sont pas forcément des mauvais élèves ou des gens qui ont peu de capacités, mais des gens qui ont peut-être un parcours atypique et qui sont amenés de par, peut-être, on peut se poser la question, une adaptation du système scolaire ou à avoir un parcours différent. Donc ma première question, bon, est certainement évidente, mais on va y répondre quand même. Est-ce que justement, donc, ça, toutes ces structures ont un but social, en plus que d'orientation, d'insertion et de scolarité? Est-ce que pour vous, c'est un facteur évident, obligatoire?
Alors, pour vous répondre...
Comprenant l'humanité, le relationnel.
Ouais. Alors nous, on dit bien que la mission locale, on accueille un public pour l'insertion professionnelle, mais aussi pour l'insertion sociale. C'est vrai qu'on va essayer de prendre en considération toutes les difficultés, on va dire, inhérentes à la recherche d'emploi et de formation. Donc ça peut tout à fait être une recherche de logement pour quelqu'un qui se retrouve parfois, on peut dire, en exemple, en rupture familiale et qui n'a pas forcément où aller se loger. Ça peut être un problème de couverture maladie, donc on va essayer de trouver des solutions par rapport à la santé, logement. Ça peut être aussi des personnes qui rencontrent des problèmes relationnels, donc on va essayer de voir avec eux comment on peut les aider à aller mieux, etc. Donc effectivement, le volet social est très important dans nos structures.
Donc vous l'avez dit, ce sont des élèves en rupture avec l'école, en échec scolaire. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire pour pour les rassurer et rassurer leurs parents, de dire qu'il y a, il y a peut-être d'autres alternatives.
Ils sont pas tous en échec scolaire. C'est vrai que c'est une image qui est souvent véhiculée, mais c'est sorti du système scolaire, pas forcément en rupture ou en échec scolaire. Parce qu'on reçoit des personnes qui ont un niveau bac plus 2, bac plus 3, même si c'est pas la majorité des personnes reçues. Et peut-être dire que on peut aussi, après être sorti du système scolaire, envisager un parcours qui est plus orienté en termes de projet professionnel. C'est vrai qu'au niveau de ce qu'on a dans les formations initiales, c'est peut-être pas quelque chose qui est central. On est peut-être plus... là, c'est peut-être aussi des caricatures, mais sur des diplômes. Et c'est quand ça va mal, quand on n'arrive pas à passer en classe supérieure, que la question se pose de savoir ce qu'on veut faire. Là, d'emblée, c'est vraiment ça qui est au cœur. C'est la question du projet. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas pu enclencher comme ça des classes les unes après les autres, il est possible, à un moment donné, de se centrer beaucoup plus sur qu'est-ce que je veux faire professionnellement parlant. Hein, c'est ce qu'on entend par le projet professionnel. Dans 1, 2, 3 ans, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ?
Oui, on pourrait préciser un petit peu les choses par rapport à votre question initiale, qui était de savoir si... nous avions une activité à caractère social. Pour ce qui concerne le travail spécifique du conseiller d'orientation psychologue, je ne le classerai pas dans une fonction sociale. C'est-à-dire qu'on n'a pas effectivement à établir de dossier social, ni même à établir quelconque rapport avec...
Vous n'allez peut-être pas aussi loin dans la vie personnelle ou familiale de la personne.
On peut aller très loin parce qu'on a une activité psychologique importante, mais on n'est pas classable, si vous voulez, dans une activité à caractère social. On a un rôle d'accompagnement, un rôle de conseil qui a effectivement de temps en temps une facette sociale dans la mesure où on tient compte de la situation personnelle des gens qui sont en face de nous, des parents, des élèves, principalement. Mais notre travail est essentiellement axé sur un volet qui est psychologique, qui est importante, qui est une composante particulièrement importante, et puis un travail de conseil qui est effectivement avec des facettes extrêmement différentes, qui peut aller depuis une simple information sur un lieu particulier de poursuite d'études, ça peut être tenir compte de difficultés structurelles importantes chez un jeune, ça peut être aussi essayer de le remotiver, de lui montrer que rien n'est définitivement perdu, qu'il y a encore des possibilités, qu'il y a des passerelles, qu'il y a des voies de formation parallèles, qu'il y a aussi une éducation tout au long de la vie et que rien ne s'arrête définitivement. Donc c'est un travail qui effectivement est changeant en fonction du public.
Et qui est sur la
durée,
j'imagine.
Je ne le casserai pas dans le social. Pardon ?
Et qui est sur la durée en plus, j'imagine.
Et qui est en plus sur la durée. C'est un accompagnement qui peut être ponctuel parce que la demande peut être ponctuelle. Mais ce sont souvent des élèves que l'on revoit plusieurs fois, 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois et sur une période qui peut être très longue.
Et quels sont les outils mis à votre disposition, autant au niveau financier que des outils de communication ou de recherche ? Quels outils déjà vous utilisez ? Quels sont ceux que vous pouvez proposer ?
Alors moi je dirais que l'outil le plus important c'est le partenariat, parce que nous, Mission Locale et PAIO, on travaille avec tous les partenaires du département.
Alors justement, je vous coupe juste, et ce serait intéressant après que vous me parliez de la corrélation entre vous, le travail que vous effectuez entre les uns avec les autres.
Alors on est complètement complémentaires. Hein, et savoir que nous, dans le cadre du projet professionnel, on travaille directement avec le conseil régional qui met régulièrement en place des formations en fonction du public que l'on touche. Parfois un public de bas niveau de qualification, donc on va essayer de retravailler effectivement, comme le disait mon collègue, le projet professionnel. Donc ça va être pendant des périodes en formation où la personne elle va être en formation rémunérée. Donc c'est aussi quelque chose qui peut permettre à des personnes qui n'ont pas de revenus dans le cadre de leur formation d'être rémunérées. Mais ça, je parle bien des publics qui sont sortis du système scolaire, je le reprécise, parce que là on est à format SART, effectivement on pense éducation nationale, mais nous c'est vraiment un public sorti du système scolaire. Donc le partenariat aussi par rapport au logement, donc toutes les associations qu'il peut y avoir en Sarthe, on essaye d'être en contact avec eux pour éventuellement aller à l'essentiel par rapport à une question posée. Mon collègue a une autre idée.
Oui, par rapport à la santé par exemple, il y a différentes, si j'ai bien compris votre question, hein, le type de réponse concrète qui est apportée. Donc la majorité des structures en Sarthe emploient un psychologue, une psychologue. pour tout ce qui relève justement de... On a bien conscience que l'insertion professionnelle, c'est pas seulement quelque chose qui touche... c'est pas seulement quelque chose de technique, c'est quelque chose qui a aussi à voir avec... avec l'histoire personnelle de la...
Vous voulez dire par là que des fois, il faut d'abord reconstruire les gens avant de reconstruire leur vocation ou leurs envies, leur motivation, quoi.
Par exemple, c'est
souvent ce que vous rencontrez, d'ailleurs,
oui.
C'est assez souvent.
Et que ça se fait aussi en confrontation avec les parents.
Oui, c'est souvent, oui.
Et aussi pour ou contre ce que fait les parents ou les frères et sœurs. Donc, c'est important de regarder un peu de ce côté-là.
À la différence du CIO, vous devez parfois passer par la famille et essayer de prendre contact pour éventuellement convaincre, éventuellement comprendre, éventuellement assister
tout
aussi,
fait,
c'est-à-dire on assiste l'enfant, le jeune ou l'adulte, et on essaye aussi, ma foi, d'assister la famille pour arriver à remonter la source et mieux comprendre le problème.
Un exemple concret, si quelqu'un a besoin d'une demande de reconnaissance qu'autorep, c'est-à-dire d'être reconnu comme travailleur handicapé. Pas besoin, mais il a un handicap et on aurait besoin de demander une reconnaissance qu'autorep. Soit le jeune lui-même ou la jeune va s'y opposer, ou les parents. Et donc, il y a tout un travail pour essayer de les convaincre. Parce que, bon, mon fils, il lui manque pas un grain dans la tête, ou ma fille.
Il y a un travail éducatif quasiment, finalement,
tout
aussi.
Tout à fait. Oui. Et qui fait que, il y a à la fois, le conseiller va être des fois amené à travailler avec la psychologue sur place. Pour savoir précisément ce que c'est que cette reconnaissance. Donc, on va travailler aussi avec l'organisme en question, la Cotorep. À partir de là aussi, l'intérêt d'avoir cette reconnaissance par rapport à tel ou tel type de métier protégé. Voilà. Travailler en atelier protégé ou en milieu protégé ou en milieu ordinaire. Donc, ça, c'est par rapport à la santé, c'est un des points, par exemple, qu'on peut être amené à travailler avec le jeune.
Nathalie, tu voulais revenir sur la mission.
On connaît la PAIO, le CIO, on connaît peut-être moins la mission générale d'insertion. je voulais que éventuellement Marc Landais ou Nathalie Guilin nous rappellent les services que vous proposez aux jeunes.
Donc la mission générale d'insertion.
Du micro a été pris là, on sent là.
Comment ?
Le coup du micro a été pris en son là.
C'est bien. Bon ben alors je pourrais peut-être faire autre chose, un autre métier plus tard. Donc nous, la mission générale d'insertion, nous nous occupons des jeunes de plus de 16 ans. Donc par rapport à la PAIO, collègues qui sont à côté, il y a une loi qui dit qu'un jeune qui est sorti du système scolaire reste sous la responsabilité de l'éducation nationale pendant 6 mois.
Les chefs ça implique quoi concrètement?
Concrètement, ça veut dire que les chefs d'établissement doivent faire un suivi de leurs élèves, savoir ce que leurs élèves sont devenus.
D'un point de vue professionnel, d'un point de vue scolaire ou d'un point de vue carrément personnel, quoi?
Alors, personnel, non, il n'y a pas un suivi de personnel. Il y a un suivi de formation. Donc, les chefs d'établissement doivent pouvoir dire quel jeune est parti en apprentissage, en formation BEP, en terminale. Une fois que le jeune a son baccalauréat, savoir s'il est parti en formation supérieure, s'il est à la recherche d'emploi. Et en début d'année scolaire, en lien avec le CIO, nous faisons un recensement des jeunes sortis du système scolaire et nous essayons de donner aux jeunes qui n'ont pas de solution, de leur donner une possibilité soit de venir au sein de la mission générale d'insertion pour trouver une formation. Et nous travaillons en partenariat avec la PAIO et les missions locales. Et
c'est-à-dire que concrètement, vous dites aux jeunes, voilà, là, tu es livré à toi-même, ça fait 6 mois que tu n'as pas fait de démarche parce que tu n'as pas pu ou pas voulu. Et donc, on est là pour t'aider.
Voilà, on est là pour accompagner les jeunes dans leur parcours de formation, leur parcours professionnel. Donc notre but, c'est quand les jeunes sont encore en scolarité, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont en difficulté dans leur parcours de formation. Je prends un exemple, un jeune qui est en terminale et qui se dit « mais pourquoi j'ai pris ce bac-là, ça ne me correspond plus, je voudrais arrêter ». Donc nous, on est là pour les aider dans leur cheminement. Leur proposer des parcours individualisés, c'est-à-dire un jeune qui ne se sent pas bien dans sa classe, lui permettre de sortir du système classe pour aller en entreprise, c'est souvent ce que l'on négocie avec le chef d'établissement et l'équipe pédagogique pour qu'ils se rendent compte de la réalité du métier choisi, de l'opportunité d'aller jusqu'à la qualification. Donc on a ces possibilités-là.
Vous apportez vraiment des réponses, comme je reviens tout à l'heure, à des jeunes qui effectivement estiment que l'éducation nationale ou la vie scolaire telle qu'elle est présentée ne répond pas à leur attente ou eux ne sont pas adaptés à ou vice-versa.
Voilà, c'est ça. Des jeunes vraiment en difficulté dans leur parcours de formation. Donc,
et l'idée, j'imagine aussi, c'est, outre le fait de ne pas laisser le jeune livrer à lui-même, c'est de ne pas perdre trop de temps, peut-être.
Alors, certaines fois, il faut laisser le temps. On ne peut pas répondre immédiatement une demande. Il faut laisser aux jeunes le temps d'aller voir dans les différentes structures, d'aller voir dans différents secteurs professionnels, mais de leur dire qu'on est toujours là pour reprendre avec eux. C'est vrai que nous, dans la mission générale d'insertion, on n'a pas la notion de temps. Un parcours avec un jeune peut se faire en 2 mois, en 3 mois. Des fois, il faut une année. Parfois, il faut même un peu plus. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas ce temps limité.
Je ne sais pas ce que tu en penses, Nathalie, mais est-ce qu'effectivement, c'est un travail qui peut être dur dans le sens où on finit des fois par dépasser le cadre un petit peu plus classique d'un professeur ou d'une vie scolaire normale où on est amené à connaître beaucoup plus, entre guillemets, l'élève qui en est plus un. C'est pas quelque chose de dur, ça, à vivre en tant que travail? Ça ne nécessite pas des fois de faire énormément la part des choses, d'arriver à motiver la personne sans pour autant trop l'envahir, sans être envahi soi-même? Ça peut être un travail assez difficile, je pense. Je suis un petit peu hors sujet, mais je vous le demande quand même.
Intéressant, c'est un travail qui demande une réflexion personnelle, qui nécessite d'avoir un regard sur sa pratique professionnelle, de se remettre en question, et puis de savoir avoir des limites et passer les relais quand on sent que ça dépasse nos compétences professionnelles.
Moi, je voulais savoir, donc vous rencontrez les jeunes, est-ce que vous pouvez nous dire quelles difficultés le plus souvent ils rencontrent? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
Alors, les difficultés,
des chiffres.
Par rapport au public que nous, on touche le plus, c'est souvent peu ou pas de qualifications. Parfois, des qualifications qui ne permettent pas d'accéder à l'emploi directement.
Je vous interromps juste, quand on dit peu ou pas de qualifications, c'est pas de brevet des collèges, pas de bac, enfin
c'est bien, c'est tout à fait ça. Donc c'est vrai qu'après, c'est aussi se dire, là, on parlait de temps tout à l'heure, on va prendre le temps d'aller vers soit une qualification dans le cadre d'un contrat en alternance, donc l'objectif, ça va être de trouver l'entreprise. Avant de trouver l'entreprise, peut-être déjà trouver le projet professionnel qui corresponde à la personne. Donc, c'est un parcours à élaborer patiemment, tranquillement, en prenant en considération aussi toutes les difficultés qu'a pu rencontrer la personne jusqu'à maintenant, pourquoi elle en est là, pourquoi elle est sortie du système scolaire sans qualification et comment nous, on va pouvoir l'aider pour accéder, parce que là, quand même, la demande première, souvent, c'est l'emploi. Donc, les jeunes veulent rentrer dans l'emploi, mais bon...
Est-ce que c'est pas une nuance, justement, entre la mission d'insertion, où il y a une différence, justement, où là, peut-être, il y a une question de temps, peut-être, qui est peut-être moins financière, et dans votre cas, où par contre, là, l'impératif est financier? Ou là, faut trouver un travail, entre guillemets, pour se nourrir, et peut-être que là, on prend un petit peu plus de temps.
Nous, parfois, par rapport à la mission générale d'insertion, on prend le relais. Enfin, la personne a fait un cycle dans le cadre de la MGI, et d'ailleurs, on a des demi-journées de présentation de la mission locale au public, auprès du public MGI. Et c'est vrai que ça nous arrive de se passer le relais. Donc nous, après, on va faire la prospection d'entreprise avec le jeune. Donc là, va démarrer un suivi individualisé par un conseiller de la mission locale ou de la PAIO avec pour objectif la qualification, voire l'emploi, voire le logement, voire la couverture sociale. Enfin, bon, on travaille, c'est ce que je disais tout à l'heure, en partenariat et avec la MGI, avec les CIO aussi. Nous, quelqu'un qui vient nous voir à la mission locale et qui nous dit, voilà, je suis sorti la semaine dernière de l'école... j'ai pas de solution. Notre première orientation, ça va être de renvoyer le jeune vers le CIO ou vers une structure éducation nationale qui va reprendre les choses, savoir où en est resté le jeune et voir si effectivement l'éducation n'a pas des réponses pour lui, qui ne sont pas forcément retournés à l'école, en lycée, mais le CIPA, le MOREA, vraiment l'idée de partenariat est très importante pour nous.
Alors, comment le CIO, après, l'accueille, ce jeune, après qu'il ait rencontré la mission générale d'insertion ou la PIO? Qu'est-ce que vous lui dites?
Alors, il faut d'abord bien comprendre que ces jeunes sont, dans la majorité des cas, mais pas systématiquement encore, sous obligation scolaire. Ils ont bien souvent 15 ans et puis un désintérêt scolaire marqué, un manque de motivation caractérisé pour les études, par exemple, assez générales qu'on peut suivre au collège. Et ces jeunes-là ont fait une hâte ou l'impression que l'entrée dans la vie active, la vie professionnelle, va résoudre tous les problèmes miraculeusement.
Il y a peut-être une immaturité là-dedans aussi.
Il y a à la fois une immaturité et puis certainement un désintérêt pour la scolarité générale qui tient en grande partie au fait que cette structure-là est inadaptée en fait à certains profils de jeunes.
Et la caricature, toujours quasiment obligatoire chez les médias, qui est rupture scolaire égale délinquance, est-ce que ça vous contredisez fortement cette chose ?
Tout à fait. C'est deux phénomènes complètement distincts. Il se peut qu'il y ait effectivement des délinquants qui sont en rupture scolaire. Bon, c'est certainement le cas pour un bon nombre d'entre eux. En revanche, tous ceux qui sont en rupture scolaire ne sont pas des délinquants, heureusement. Alors, simplement pour préciser sur par rapport à votre question, lorsque des jeunes reviennent effectivement d'un entretien avec un coordonnateur de structure MGI, ou avec quelqu'un de la mission locale ou de la PAIO, ce sont des jeunes qui, en fait, cherchent une solution. Donc, dans un premier temps, la responsabilité de l'éducation nationale, c'est déjà de voir avec ce jeune si on ne peut pas lui fournir une solution qui lui convienne. S'il y a des solutions qui lui conviennent, on lui propose, et puis ensuite, il est libre à lui de les accepter, en sachant qu'il est quand même soumis à l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans. Bon, ensuite, effectivement, si l'éducation nationale ne lui propose pas quelque chose qui l'intéresse véritablement, à ce moment-là, les structures relais prennent ça en charge très très bien, et à ce moment-là, ils trouvent leur bonheur comme ça.
Il faut peut-être préciser aussi que ce jeune, il ne faut pas qu'il ait peur de venir vous voir, il ne faut pas qu'il se sente dévalorisé et qu'il ose frapper à la porte.
Oui, alors nous, c'est vrai que ce qu'on dit la plupart du temps, c'est qu'il n'y a aucune obligation de venir à la mission locale. Hein. Ce n'est pas comme, par exemple, à la NPE, quand on est demandeur d'emploi, pour avoir éventuellement droit à certains dispositifs. Il faut être inscrit à la NPA. Nous, le jeune qui pousse la porte de la mission locale, déjà pour nous, c'est et qui est un jeune qui est donc en rupture scolaire, qui galère, qui n'arrive pas à trouver de solution parce que pas de qualification.
C'est déjà un premier pas, quoi.
Alors pour nous, c'est déjà le plus grand pas qui est fait parce que c'est vrai que on a des propositions, on a des réponses à apporter. C'est pas forcément les bonnes réponses ou les bonnes propositions, mais à savoir que ce qui va être le plus important avec ce jeune-là, c'est qu'on va essayer de construire quelque chose en fonction de sa demande. Donc le fait qu'il vienne nous rencontrer, c'est déjà pour nous.
Vous avez eu des cas, par curiosité, de personnes qui ont repassé, par exemple, le DAEU, le diplôme d'accès aux études universitaires, en disant bon, voilà, je me ressaisis, je passe mon bac
pour
avoir.
Bien sûr, bien sûr.
Bon, ce qui va être une victoire, j'imagine.
Oui, alors pour nous, effectivement, pour des jeunes qui n'ont aucune qualification, après le DAEU, il y a quand même pour y rentrer, il faut déjà être sorti du système scolaire depuis un certain temps, parfois même avoir travaillé. Bon, ces personnes-là, effectivement, à partir du moment qu'elles décident de passer un DAU parce qu'elles ont eu des expériences qui leur disent finalement ce niveau-là m'intéresse. C'est souvent très très optimiste. Enfin, nous, on est très très contents de pouvoir les aider à aller vers ce genre d'orientation. Tout à fait.
Alors moi j'ai une question, même si ça vous réjouit pas, je suppose, mais est-ce que ça vous est arrivé de vous trouver vous-même en échec devant un jeune et de ne pas trouver de solution ?
Mais oui.
Je trouve que c'est une très très bonne question.
Oui, moi je dis que je ne suis pas la mère Noël, que de toute façon des fois on est devant des problématiques qui ne sont pas de notre sort, et puis il y a des jeunes, on ne peut pas répondre à la demande immédiatement, mais moi je crois en la personne, donc de toute façon le temps, le jeune fera son chemin, il arrivera à quelque chose, mais c'est vrai que parfois nous on a envie, le danger c'est d'avoir envie à la place du jeune, de se projeter à la place du jeune et dire je le verrai bien faire ça, mais
quasiment se battre à sa place, quoi.
C'est un défi.
Mais il y a des jeunes qu'on n'arrive pas à, qui ressortent de la MGI sans solution. Oui, ça arrive.
Oui, puis il faut voir aussi qu'effectivement on a le droit au décrochage finalement, au décrochage scolaire. Pour certains élèves, effectivement, c'est intéressant pour eux d'aller se confronter peut-être au monde de l'entreprise, se rendre compte des difficultés, que le fait de ne pas avoir de qualification, ça ne permet pas d'évoluer à l'intérieur de l'entreprise. Effectivement, on a des jeunes qui reviennent comme ça après un court séjour, après avoir fait des contrats intérim pour revenir dans un établissement scolaire pour se requalifier. Mmh. On peut mettre en place, par exemple, on parlait du temps tout à l'heure par rapport à à la formation. On peut mettre par exemple en place des parcours BEP 1 an pour des élèves qui auraient doublé une seconde et pour qui effectivement il y aurait un besoin de qualification plus rapide. Hein. Donc on est aussi là pour essayer de ne pas non plus leur faire perdre de temps.
Est-ce que certains d'entre vous ont justement des parcours atypiques qui peuvent justifier le fait d'avoir fait cette profession et de pouvoir être le plus à même de comprendre la personne qui vient vous voir?
Je crois que si on est dans l'insertion, de toute façon, c'est parce qu'on est, on a une histoire qui fait qu'on a été sensibilisé à un moment donné. De toute façon, si on fait un métier, on a choisi un métier, c'est pas innocent. Il y a des choses de notre vie qui ont fait qu'on a été, qu'on a eu des parcours peut-être un peu difficiles. Oui, certainement.
Donc c'est un argument qui peut se faire valoir effectivement pour rassurer un jeune qui est un peu en difficulté. Quoi.
Je ne pense pas qu'il faut quand on est un professionnel, quand
je ne dis pas, regarde-moi, ouais. Moi mon exemple.
Voilà, mais, non jamais, surtout pas. Mais je crois que quand on
a, je peux comprendre, quoi.
Voilà, tu peux rebondir, tu peux, c'est pas parce que au moment X là tu es en difficulté que tu ne vas pas y arriver. Par contre, ce que je fais moi avec les jeunes que j'accompagne, c'est leur témoigner aussi ou faire venir des jeunes qui sont passés par la MGI et qui ont eu des parcours vraiment de superbes parcours. Des jeunes, moi un jeune que j'ai reçu il y a quelques années qui sortait à l'époque de CPPN, qui est passé par la MGI et qui a réussi, qui a repris une scolarité, qui a pris du temps et qui a réussi à créer son entreprise.
Donc il y a un aspect chez nous.
Voilà, c'est ça.
Les différents services que vous mettez toujours à profit cet aspect entre guillemets aussi solidaire, quoi.
Ah oui, oui, oui. Et ça, c'est vrai que c'est fédérateur.
Je crois que la première chose, effectivement, pour qu'un jeune retourne dans une démarche de projet, c'est effectivement qu'il retrouve confiance en lui. Mmh. Et donc, effectivement, dans les accompagnements qu'on va pouvoir lui proposer, on va, encourager toutes les réussites possibles, même si elles sont minimes au départ, sur le plan scolaire, plutôt que de stigmatiser les échecs. Mmh. C'est souvent d'ailleurs ce qu'ils ont vécu, quand ils étaient dans leur collège et qu'ils étaient en fond de la classe. Donc ça, je crois que c'est aussi une des spécificités, c'est vraiment essayer de faire en sorte de positiver toutes ces expériences.
Donc reprendre confiance, je pense qu'il peut être un mot de fin. À moins que l'un d'entre vous ait envie d'intervenir sur un dernier point, un mot à rajouter.
Je voulais juste revenir sur une question que vous aviez posée tout à l'heure qui me paraît, de mon point de vue, extrêmement importante, c'est la question de la solution. S'il y a une solution, ça veut dire qu'il y a un problème. S'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a un individu, une personne qui est porteuse de ce problème. Et il n'y a que la personne qui peut trouver la solution à son problème. Ce n'est pas l'extérieur qui va lui fournir la solution. L'extérieur peut lui fournir des repères, peut lui fournir des points d'appui, des informations. Mais ça sera en définitive toujours à la personne de trouver la solution au problème qu'elle se pose.
On en revient à la reconstruction.
On revient toujours à la construction et à la reconstruction. Et je pense que l'une des caractéristiques qui peut-être nous unit ici ce soir, c'est justement que nous sommes sur ce champ-là. Nous ne sommes pas dans le domaine de la solution préfabriquée, de la solution toute faite, clé en main, mais justement de quelque chose qui est de l'ordre du travail intérieur qui se fait dans la personne et qui demande des fois beaucoup de temps. Ça peut demander 2 ans, 3 ans, et il faut des fois même une vie entière pour se reconstruire. Donc c'est ça qui est important dans cet aspect des choses, c'est d'essayer de les outiller, de leur montrer qu'il y a un espoir dans la résolution de leurs problèmes, qu'à tout problème il y a une solution, et que par conséquent il faut du temps et de la patience pour le résoudre.
Donc trouver son métier et se trouver soi-même.